journal, Florence Paracuelos, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. À la une ce matin, ministre sifflé par les siens, c'est Christophe Castaner au congrès du syndicat de police Alliance. Les policiers qui redoutent d'être encore pris pour cible samedi, ce sera la prochaine manifestation des Gilets jaunes. Un Américain à Paris, œuvre utile d'un chercheur qui avait très précisément numérisé les mesures de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Ça peut servir aujourd'hui. Et puis on verra comment le secteur du tourisme fait face à la perte d'une escale incontournable de son circuit parisien. Le parcours du combattant pour adopter un enfant, Nicolas, voilà de quoi votre invité nous parlera tout à l'heure.
Il s'agit d'Adrien Taquet, il est secrétaire d'État chargé de la protection de l'enfance, invité du grand entretien du 7-9. Vous pouvez nous appeler dès maintenant pour dialoguer avec lui au 01 45 24 7000. Passez sinon par les réseaux sociaux ou l'application mobile de France Inter.
Dans ce journal également, les Français accros à la fumette, les députés européens britanniques prêts à remettre le couvert et le comte Dracula sur papier Bible, il fait son entrée dans la Pléiade.
France Inter.
Sera-t-il entendu l'appel à l'unité nationale lancé avant-hier par Emmanuel Macron après l'incendie de Notre-Dame de Paris? On verra ça samedi, dans deux jours, acte 23 de la mobilisation des Gilets jaunes. Les autorités redoutent un retour des Black Blocs à Paris. La tension monte dans les rangs de la police. Christophe Castaner en a fait les frais hier en Seine-et-Marne, en clôture du congrès national du syndicat Alliance. Un ministre conspué par ses troupes, comme l'a constaté Emmanuel Leclerc.
Christophe Castaner a eu droit à une séance très particulière avant son discours devant 300 à 400 policiers délégués du syndicat Alliance. Avec la projection d'un film spécial caillassage de flics sur écran géant. Des policiers qui souhaitaient tourner le dos au ministre de l'Intérieur lors de son discours, mais au final, quelques applaudissements sur le passage consacré aux casseurs.
J'en ai assez de cette fable du gentil casseur et du méchant flic inversant totalement la charge de la preuve.
Les policiers attendent maintenant des actes et surtout des ordres s'il devait à nouveau y avoir des black blocs.
Là, ça pourrait être le mouvement des gilets bleus parce qu'il y a vraiment un ras-le-bol général.
Là, effectivement, les boules sont très hautes là.
Nous, on veut juste des actes.
C'est surtout de ne pas avoir le bon ordre. Il faut qu'on ait les bons ordres.
C'est une menace parce qu'ils sèment le chaos et que eux, la vie humaine n'a pas d'importance pour eux. Là, maintenant, il faut que ça s'arrête.
Ils n'ont plus peur de rien. Il y a un sentiment d'impunité. Ils se permettent de casser du flic, essayer même de tuer du flic. Ils savent qu'ils en ont la possibilité parce que derrière, malheureusement, il n'y a pas toujours la sanction en adéquation avec les faits.
Louanville-Gruy-Fontaine en Seine-et-Marne, Emmanuel Leclerc, France Inter.
La date du samedi 20 avril est cochée depuis longtemps sur l'agenda des Gilets jaunes. Ce devait être la manifestation d'après les annonces d'Emmanuel Macron, annonce reportée pour cause de cathédrale brûlée. Alors quelle est la température sur les ronds-points encore occupés? C'est un reportage de Delphine Evenou à Montabon dans la Sarthe.
Sortie d'autoroute sur ce terrain prêté par une agricultrice, on se relaie tous les jours depuis le 17 novembre. Deux caravanes, une cabane en bois et une terrasse abritée. Dominique, journal ouvert sur un article.
Oui, le grand débat, c'est que le président devait dire.
Une ligne retient son attention, plus que le RIC local ou la suppression de l'ENA.
Bon, si la retraite est indexée sur le coût de la vie, ce serait une petite victoire quand même.
Son voisin acquiesce.
Parce que là, avec un loyer de 400 euros, avec 1000 euros de retraite, c'est pas possible.
S'il annonce ça, vous quittez ce rond-point de Montabon?
Je suivrai tout ensemble, parce que moi je suis pas tout seul. Hein.
Mais avant d'envisager un départ, ils attendent déjà que le président parle. Le report des annonces lundi soir est resté en travers de la gorge de Marc, intérimaire.
Ce qui est arrivé à Notre-Dame de Paris, c'est tragique. Par contre, je vais pas dire que le pays il est à feu et à sang, mais presque. Et il a oublié les gilets jaunes. C'est pas bien.
Le quadragénaire sera quand même devant sa télé le moment venu.
Même si on le porte pas dans notre cœur actuellement, on va quand même regarder, on va quand même écouter ce qu'il va nous dire.
Enfoncé dans son siège, regard planté dans le sol, Noé passe son tour.
J'attends rien du tout, absolument rien du tout de lui.
Les centaines de millions d'euros récoltés en quelques jours pour Notre-Dame l'ont écœuré.
Ça prouve une chose, c'est que les pierres c'est plus important que l'humain. Nous, ça fait 5 mois là qu'on se plaint qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à vivre. Et là, 2-3 pierres qui sont tombées là, hein. Tout le monde est dessus. On préfère voir les gens mourir. Voilà, je comprends pas.
La relève de l'après-midi arrive, la cabane en bois de Montabon n'est pas prête d'être démontée.
De l'argent pour les pierres et pas pour les hommes, critique lancée hier par la CGT, la France Insoumise ou la Fondation Abbé Pierre entre autres. Plus de 800 millions d'euros de dons récoltés en deux jours. Pour les particuliers, ils seront défiscalisés à 75% jusqu'à 1000 euros, annonce du Premier ministre Édouard Philippe hier. Un général a été nommé pour mener la reconstruction. Sa mission plus difficile que le pont de la rivière Kouaï, ce sera d'arriver à rebâtir bâtir Notre-Dame en 5 ans. Il pourra compter pour cela sur les travaux de ce chercheur américain mort l'an dernier. Andrew Talon avait minutieusement cartographié la cathédrale avec des lasers. Le résultat, Loïc Loury, est d'une précision exceptionnelle.
Une carte numérique complète de Notre-Dame de Paris, voilà ce que nous laisse Andrew Talon. Derrière ce projet, le rêve d'un professeur, comprendre comment de tels édifices ont été construits il y a plus de 800 ans. Il s'en expliquait pour National Geographic.
Malheureusement pour moi, il n'y a pas de trace écrite. Les maçons ne faisaient pas de pause en fin de journée pour dire « je construis ma cathédrale de telle façon, pour telle raison ». Alors j'ai commencé à utiliser la technologie pour tenter de faire parler les murs.
Grâce notamment à des lasers, il a donc mesuré la moindre distance à l'intérieur de Notre-Dame, de chaque mur à chaque pilier, statue ou sombre recoin. Le résultat est un nuage de plus d'un milliard de points et une précision de quelques millimètres. Lindsay Cook, aujourd'hui professeur à Vassar, fut son étudiante.
L'objectif d'Andrew était de comprendre en profondeur la structure des monuments gothiques. Il s'intéressait vraiment au fait d'entrer dans l'esprit des maîtres maçons du Moyen-Âge.
Un travail essentiel, dit-elle, bien au-delà de la nef de la cathédrale parisienne.
Cette mission avait pour but de montrer comment, avec le temps, alors que le gothique devenait le gothique, que l'art gothique émergeait, la France, elle aussi, devenait la France.
Et cette masse de données inestimable sera volontiers partagée pour la reconstruction de Notre-Dame. New York, Loïc Loury, France Inter.
Et comment trouver suffisamment d'artisans opérationnels pour reconstruire la charpente, le toit, les voûtes, la flèche de Notre-Dame? Un plan de formation sera annoncé dans la journée. Ce jeudi, il sera aussi marqué par des hommages aux pompiers de Paris qui ont éteint l'incendie, reçus à l'Élysée à midi et remerciés sur le parvis de l'hôtel de ville à 16h30. Les pompiers toujours sur place pour sécuriser le bâtiment. Hier, un petit garçon a pu les rencontrer. Il s'appelle Charles. Il a 10 ans et quand il a appelé un pompier pour lui faire signer un autographe,
il m'a dit d'entrer dans le périmètre de sécurité. On a pris une photo et je leur ai demandé s'ils pouvaient faire un autographe. Ils m'ont dit c'est le chef qui signe. Après, j'ai dit que c'était tout le monde devait signer. Ils ont dit ah, et ils ont signé. De toute façon, ils ont tous fait le même travail, ils ont dû éteindre le feu. C'est courageux, c'est héroïque. Déjà qu'il y en avait un qui était perché tout en haut pour éteindre et qu'il était à pas très loin du feu. Ils peuvent être brûlés à chaque instant, ils peuvent être blessés. Quand j'étais petite, je voulais faire pompier et je trouve qu'ils ont fait quand même un travail extraordinaire pour éteindre le feu.
Voilà, Charles et son admiration au micro de Thibault Lefebvre. Pendant ce temps-là, tout est bouleversé chez les tour opérateurs de la capitale. Supprimée l'étape Notre-Dame, Philippe Lefebvre, c'est la croix pour les professionnels de la visite guidée.
C'est le cas effectivement pour les entreprises qui gèrent les bus à plateforme qui sillonnent les rues de la capitale et qui proposaient ces jours derniers encore des visites guidées de Notre-Dame de Paris. Florence Bayert est la directrice générale de Paris City Vision, l'un des poids lourds du secteur.
La destination Notre-Dame pour nous représente à peu près 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Notre groupe Paris City Vision en fait 65, donc je ne peux pas vous dire effectivement que c'est neutre. Évidemment, ça va avoir un impact. On emploie effectivement tout au long de l'année 180 salariés. On travaille aussi avec un panel de 200 guides. Et en saison, on va monter donc du coup d'avril à octobre à 500 collaborateurs qui vont travailler pour accueillir du coup nos clients. Ces gens comptent sur nous et on a une responsabilité en tant que professionnel. Oui. Pas de chômage technique, pas de plan social, mais une vraie volonté et un vrai engagement de l'entreprise de travailler sur le plan de continuité et des alternatives. Oui.
Et si l'entreprise a organisé dans l'urgence de nouveaux itinéraires passant loin du parvis de la cathédrale et des visites guidées d'autres sites religieux comme le Sacré-Cœur ou la Sainte-Chapelle, elle redoute tout de même un manque à gagner de l'ordre de 30 à 60%. Il restera aussi un problème de taille à régler dans les prochains jours, celui de l'afflux massif de touristes dans d'autres monuments de la capitale, pas forcément prêt à accueillir 30 000 visiteurs supplémentaires chaque jour.
Philippe Lefebvre, un accident de bus sur l'île de Madère a tué 29 touristes allemands hier soir. Le chauffeur a manifestement perdu le contrôle. Le bus est sorti de la route en faisant plusieurs tonneaux. Le Premier ministre portugais a appelé Angela Merkel pour lui présenter ses condoléances.
Il est 8h09, il pensait ne plus revoir Strasbourg.
Eh oui, mais les 73 députés européens britanniques ont dû se rendre à l'évidence sans accord sur le Brexit. Il y aura chez eux des élections le mois prochain. Les voilà donc repartis en campagne au dernier jour de la session plénière du Parlement. Parole d'élus british de tous bords au micro de Johanna Holstein.
The morning message is I'm coming back.
Le leader du parti Brexit, Nigel Farage, à la tribune provocateur, annonce son retour dans le prochain Parlement européen. Mais pour l'instant, la tenue d'élections européennes au Royaume-Uni n'est pas confirmée. L'incertitude se prolonge donc pour les eurodéputés britanniques comme Alan Smith du Parti national écossais.
C'était bizarre, vraiment. Je
je me préparais pour quitter le Parlement, et puis j'ai encore préparé pour quitter le Parlement. Mais maintenant, nous devons faire la campagne, voilà. C'est notre meilleure chance d'arrêter Brexit.
Une campagne qui va être difficile à mener pour les eurodéputés conservateurs comme Daniel Dalton.
On a eu le référendum il y a 3 ans. C'est 3 ans plus tard et on va avoir un nouveau député européen. Ça, c'est un message très difficile de donner au peuple britannique.
Le peuple britannique va-t-il à nouveau voter en majorité pour les eurosceptiques ? Non, selon la travailliste Jude Kirton-Darling.
Moi, je parle de la crainte pour les eurosceptiques. Je crois qu'ils sont les politiciens d'hier et nous, on est en train de se battre pour l'avenir.
L'avenir dira aussi si les nouveaux eurodéputés britanniques choisiront de briguer ou non des postes clés dans la nouvelle Assemblée, ce qui serait déplacé de l'avis de la majorité ici. À Strasbourg, Johanna Hochstein, France Inter.
Et sur France Inter, le 18-20 continue son tour d'Europe avant les élections. Rendez-vous à Rome avec Fabienne Sintès. Verdict attendu ce soir au procès Mera. Hier, ses avocats ont appelé les juges de la cour d'assises spéciale à s'en tenir au droit en l'absence de preuves de complicité du frère du tueur de Toulouse. La veille, l'accusation a requis la réclusion criminelle à perpétuité. Le pilote de l'hélicoptère pris en otage par Redouane Faïd et sa belle-fille remise en liberté hier soir. Les enquêteurs avaient découvert que la jeune fille et le braqueur emprisonné avaient échangé des lettres avant son évasion. Leur garde à vue a été levée. Aucune charge n'est retenue contre eux pour l'instant.
Les Français accros, Florence, à la fumette.
Et oui, nous sommes les plus gros consommateurs de cannabis en Europe, selon l'Observatoire français des drogues et toxicomanies. Dans son rapport, Daniel Messager, l'organisme dresse le portrait d'une France dépendante à toutes sortes de substances.
L'usage de cannabis est installé en France. Sur le podium de l'Union européenne, elle occupe la première place devant le Danemark et l'Italie. 45% des 18-64 ans en ont déjà consommé, 4 jeunes de 17 ans sur 10. Dans une moindre proportion, mais c'est une hausse jugée significative, celle de la cocaïne, 1,6% des Français en consomment. C'était juste un peu plus de 1% en 2014. Le docteur Laurent Carilla, addictologue à l'hôpital Paul Brousse de Villejuif, reçoit tous les jours des consommateurs qui ne parviennent pas à décrocher.
Il n'y a pas d'âge pour être accro à la coke, en fait. C'est une drogue qui induit assez rapidement un phénomène d'addiction avec une grande capacité d'atteinte psychique, en fait. C'est pour ça qu'on dit que c'est très, très psychologique, la cocaïne. Il y a de plus en plus de patients et de patientes qui viennent pour des consommations, on va dire, addictives. Donc, ils sont dans la maladie, hein. Ils sont dans le trouble de l'usage avec des problèmes sociaux, des problèmes de santé, physique, psychologique.
Quant au tabac, même si les Français demeurent de gros fumeurs, 33% fument au quotidien. Les récentes hausses de prix semblent porter leurs fruits. 78% des jeunes avaient déjà fumé en 2000. Ils sont aujourd'hui 20% de moins.
Un uniforme bleu marine surmonté d'un écusson tricolore, 600 000 lycéens le porteront chaque année pendant un mois de service national universel. Ce matin, on le verra, cet uniforme sur le dos de 13 premiers jeunes gens venus de 13 départements où l'on expérimentera le SNU dès le mois de juin. Claire Chaudière a pu les rencontrer en avant-première.
Pour faire partie de la toute première génération SNU, ils ont dû écrire une lettre de motivation.
S'engager, pour moi, c'est important. Après, j'aime bien tout ce qui est sport-combat.
J'ai toujours voulu participer dans une association, mais j'ai jamais su comment faire.
Moi, personnellement, ça m'attire parce que ce qui est militaire, il y a des valeurs derrière tout ça.
Bac pro, seconde générale, décrocheur scolaire venu de Haute-Saône, des Ardennes ou de Guyane, les différences sont bien là.
On n'est pas tous pareils.
Les accents du sud, les accents du nord.
Tous portent un même uniforme, bleu marine.
C'est pas les costumes de l'armée, c'est plutôt couleur de la France.
Depuis lundi, le petit groupe enchaîne les visites de lieux symboles de la République, visiblement déjà assez soudés.
C'est des bons moments à vivre.
On a eu le temps d'espérer des amis.
Ce jour-là, une expo sur l'histoire du service militaire.
C'est-à-dire qu'il y a un aspect à la fois d'un brassage qui est géographique et social.
Le SNU en est le prolongement, a compris Alexis.
On va dire que c'est un cousin germain du service militaire.
L'esprit de groupe, tout ça, et on peut retrouver les valeurs de la France.
Marie Bertille, la Guyanaise, moins séduite par l'univers militaire, est tout de même impatiente de suivre une initiation en particulier.
L'autodéfense. Je pense que c'est particulièrement intéressant pour les filles.
Dans les classes de seconde, le projet est loin de séduire tout le monde.
J'aurais dit de le faire, mais ça n'intéressait pas avec moi.
Mais l'engouement est bien là, insiste le gouvernement, qui brandit un chiffre, 4000 candidatures reçues en quelques semaines seulement.
Et voilà les deux derniers finalistes de la Ligue des Champions. Tottenham, malgré sa défaite 4-3 à Manchester City, retrouvera l'Ajax d'Amsterdam. Et Liverpool, vainqueur 4-1 à Porto, affrontera le Barça. Les matchs auront lieu les 30 avril et 1er mai prochain. Verdict au retour une semaine plus tard. Et puis caramba, encore raté. Le PSG, sa troisième occasion manquée d'être sacré champion de France. Privé de leurs meilleurs joueurs, les Parisiens ont perdu hier soir à Nantes 3-2. Leur entraîneur Thomas Tuchel commence à s'inquiéter pour la finale de la Coupe de France dans 10 jours face à Rennes. Les joueurs du PSG privés de sang frais. Serait-ce Dracula qui est passé par là? Dracula à Paris, puisqu'il vient de faire son entrée dans la Pléiade, consécration d'un chef-d'œuvre de la littérature. Un vampire sur papier bible, plaisir et frisson garanti, Ilan Amor-Youssef.
Il peut bien rire, Dracula. Il a enfin réussi à s'installer aux côtés des plus grands dans la Pléiade. C'est à Alain Morvan, déjà éditeur de Frankenstein, que l'on doit l'entrée du vampire dans la prestigieuse collection Reliés Cuir et Or. Et selon lui, ce n'est que justice.
À mon avis, Dracula a souffert beaucoup de son succès. Il y a des adaptations qui sont géniales. Le film de Coppola est tout à fait remarquable. Il y a bien sûr le très célèbre Nosferatu de Murnau. Mais il y a aussi des sous-produits. On ne va pas en citer parce qu'on est d'une humeur charitable. Mais il y a eu des adaptations de Dracula qui étaient un peu pathétiques.
Un retour à l'original s'imposait. Le Dracula du Britannique Bram Stoker. Un chef-d'œuvre, un grand roman d'aventure qui met en scène un mythe essentiel, rappelle Alain Morvan.
Nous sommes depuis quelques siècles dans un univers où, par toutes sortes de moyens, on essaye d'occulter la mort. On essaye d'occulter la peur aussi. Le vampire nous rappelle cette donnée fondamentale, à savoir que nous avons besoin de peur pour être complets.
Alors munissez-vous d'une gousse d'ail ou d'un crucifix si vous voulez, mais n'hésitez pas à aller à la rencontre du plus grand vampire de la littérature.
Et vive le rouge ce matin, Nicolas, pas le rouge sang de Dracula, non, le rouge carmin de France Inter au plus haut.
Oui, Florence, on vit aujourd'hui à Inter un moment très fort, un moment historique au sens strict, puisque nous sommes ce matin non seulement la première matinale de France, mais la première radio de France tout court. Ça n'est jamais arrivé depuis que l'audience radio est mesurée en 1986. La première marche était occupée par nos concurrents et c'est un honneur aujourd'hui, un honneur, un grand honneur pour nous tous de la gravir. Vous êtes près de 6,5 millions d'auditeurs à nous écouter tous les jours. Le 7-9 donc est la première matinale de France. Il y a des records historiques sur toute la grille de France Inter. Je ne cite que Boomerang et le journal de 13h. Et là, je vais parler pendant 3 minutes. C'est rare, normalement je fais court. Mais d'abord, pour vous dire que ce succès, amis auditeurs, c'est le vôtre. Vous êtes là tous les jours avec nous. Vous écoutez France Inter, la dent dure, vous êtes souvent impitoyable, mais vous nous permettez d'avancer. Tous ici, nous travaillons pour vous, en espérant être à la hauteur de votre exigence. Alors surtout, ne lâchez rien, si vous voulez nous envoyer un mail sympa, on le lira évidemment. Je voudrais d'abord et avant tout remercier la rédaction de France Inter, ses différents services, la rédaction web. Tous portent la couleur de la chaîne, tous défendent une idée de l'information que vous entendez tous les jours et que vous partagez. Je veux saluer notre patronne, Laurence Bloch. Ce succès, Laurence, nous vous le devons. C'est vous, Laurence, qui portez cette chaîne et cette grille depuis 2014. Merci donc, Laurence, et merci Catherine Neil, nos deux patronnes. Laissez-moi vous dire que vous n'êtes pas facile tous les jours, mais nous non plus. Merci enfin à toute l'équipe de la matinale, ceux que vous n'entendez pas mais qui sont là, sur le pont, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ce n'est pas une image, c'est la stricte vérité. Bravo Florence, la femme la plus écoutée de France. Merci Alexandra d'avoir rejoint la France Inter qui se lève tôt. Et puis salut aux mains d'or, les techniciens du 7-9. Voilà, je voulais partager ce bonheur, cette fierté avec vous. Mais je veux partager une autre chose maintenant. Je n'oublie pas, en dépit de ces chiffres, la défiance massive à l'égard du journalisme et plus généralement des médias. Convaincre à nouveau de l'utilité de ce métier demandera pour longtemps, un travail acharné. Ayons donc l'audience heureuse, mais ayons-la aussi modeste, parce que tout reste à faire et le plus dur est encore devant nous. Enfin, ce résultat, il est celui du service public, qui est plus que jamais irremplaçable dans ce paysage médiatique éclaté. Nous défendons des valeurs et nous sommes mobiles. La réforme, nous la pratiquons tous les jours, ici même, dans ces murs, dans ce studio. Ce patrimoine commun, je le redis, ce service public est une richesse collective. Elle vous appartient, amis auditeurs. Et dernier mot, un dernier mot auquel je tiens beaucoup pour un coucou à Léa Salamé. Je sais que tu nous écoutes, Léa. Ce moment est évidemment aussi le tien. C'est le nôtre. Nous sommes si heureux d'animer ensemble, de travailler ensemble pour cette matinale depuis 2 ans. Je te salue Léa, je t'embrasse. Rendez-vous le 27 mai prochain. Et d'ici là, Alexandra, on se remet au boulot parce que l'émission n'est pas finie.